Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline. Avec Olivier Monsens.
Salut, bienvenue à mes côtés sur le pont du cargo de Radio Caroline, à bord duquel aujourd'hui nous allons nous immerger dans les atmosphères tendues, poisseuses, sombres, violentes parfois, mais aussi politiques, engagées et libertaires, celles du roman policier, du polar, de ceux, à tout le moins, qui servent de révélateurs au dysfonctionnement certes de la psychologie humaine, mais aussi de la société, scrutant les turpitudes et manipulations politiques cachées et s'intéressant à ses conséquences sur le tissu social, sur les gens. Pour planter le décor, cet extrait d'un dossier consacré il y a quelques années au polar par quelques plumes expertes. Né à la charnière du 19e et 20e siècle, le genre policier a connu de nombreuses mutations tout au long du 20e. Du roman policé à énigme au feuilleton populaire, le genre trouve un second souffle critique et violent dans les années 20 avec l'irruption du roman noir américain, écrit Philippe Corcuff, sociologue et philosophe, qui poursuit. Après des années molles où les stéréotypes confinaient le genre dans les halls de gare, une nouvelle mue s'est opérée dans les années de la contestation généralisée, tant politique qu'esthétique, c'est-à-dire dès les années 60. Et c'est au moment où, par la suite, les sociétés françaises et italiennes se dépolitiseront peu à peu que le polar prendra, lui, une teinte de plus en plus critique, tendant à se politiser. Étrange paradoxe dont la compréhension repose peut-être sur la rencontre entre une génération désillusionnée, en rupture avec l'engagement politique traditionnel, mais toujours attachée à une vision sombre et critique de la société, le polar devenant l'un des lieux privilégiés de cette critique, provoquant un véritable déferlement d'auteurs à succès, tant aux USA qu'en Europe. Et ce déferlement, eh bien, il commencera dès les années 70 sur le vieux continent, en France en tout cas, avec Jean-Patrick Manchette, figure emblématique de ce qu'on appellera le néopolar, expression qu'on lui accolera alors qu'il l'avait inventée à titre péjoratif, on y reviendra. Manchette auquel succédera Didier Daninx au début des années 80, mais aussi, parmi d'autres et plus tard, l'historienne Dominique Manotti, devenue avec brio autrice de romans noirs construits sur des contextes sociaux et politiques. Plongeons-nous dans leur parcours, leurs histoires et leurs intrigues, en tout cas ce qu'elles disent de la société, non sans commencer par un retour sur la création de la mythique série noire de Gallimard qui révélera les meilleurs auteurs américains du genre, lesquels influenceront Manchette et quelques autres.
Au chaud, la petite. Pour vous tout seul.
Je sais pas exactement ce qui vous a pris, d'ailleurs je veux pas le savoir. Mais pour vous fourrer dans un micmac pareil, il fallait qu'il y ait un joli bain de laine à la clé.
Mais je suis pas là, c'est l'autre. Il ne faut pas la parole sur la nuit. Rien que pour me faire chier.
Désolé, je dois m'absenter.
Extrait de Série Noire, film d'Alain Corneau avec Patrick Devers, Myriam Boyer et la jeune Marie Trintignant. Et puis aussi au dialogue, rien de moins que Georges Perec. Il s'agit en fait de l'adaptation du roman A Hell of a Woman, signé Jim Thompson, auteur américain du genre, publié de ce côté-ci de l'Atlantique par La Série Noire de Gallimard, en 1954, sous le titre « Des clics et des cloaques » et réédité par Rivage Noir en 2013, je le dis en passant, sous le titre « Une fille d'enfer », donc titre plus proche de l'original. Dans ce livre, on suit Frank Dillon, un représentant de commerce minable, qui n'arrive plus à joindre les deux bouts et traficote en maquillant ses bons de commande. Un jour, alors qu'il fait du porte-à-porte et sonne chez une vieille acriâtre, celle-ci lui propose sa nièce en guise de paiement. Elle s'appelle Mona et, touché par cette jeune fille, Franck l'emmène, lui promettant de l'aider. Mais Franck et Mona se retrouveront bientôt mêlés à un complot qui mettra à mal leur santé mentale. Roman noir, on le voit, qui sera donc révélé chez nous comme son auteur par cette mythique collection au titre jaune sur couverture noire, la série Noire, créée en 1945 chez Gallimard par un traducteur, Marcel Duhamel, ami de Jacques Prévert et de Raymond Queneau. Alors son idée, proposer les auteurs les plus représentatifs du nouveau roman policier américain et anglais au public francophone. Que le lecteur non prévenu se méfie, les volumes de la série noire ne peuvent pas sans danger être mis entre toutes les mains, écrit Marcel Duhamel lors de sa création. On y voit des policiers plus corrompus que les malfaiteurs qu'ils poursuivent, le détective sympathique ne résout pas toujours le mystère, parfois il n'y a pas de mystère, et quelquefois pas de détective du tout. Mais alors, il reste de l'action, de l'angoisse, de la violence. Parmi ceux qui vont amorcer la pompe de cette collection, Raymond Chandler, David Goodies, Jim Thompson et Dashiell Hammett, le meilleur romancier du monde depuis 1920, dira Jean-Patrick Manchette, qui revendiquera d'ailleurs la filiation avec Dashiell Hammett. La série noire va véritablement décoller à partir de 1948, quand Gallimard décidera d'augmenter tant le nombre de ses parutions que le volume des tirages. Résultat, pas moins de 10 millions d'exemplaires seront vendus en 10 ans et 1000 titres publiés jusqu'à la fin des années 60. La série noire, explique Stéphanie Delestré, qui dirige la collection depuis 2017, c'est le roman Hard Boil, dur à cuire, qui met en scène des personnages sans aucun scrupule et parle des bas-fonds de la société, notamment américaine. C'est une manière de raconter l'envers des choses. Quant aux auteurs français qui auront l'honneur d'être publiés sous le label Série Noire, le premier sera dès 1948, mais sous un pseudo très ricain, histoire de ne pas effrayer le fidèle, Serge Arquette, qui signe Terry Stewart. Puis viendra Albert Simonin en 1953, qui, bien que conservant son patronyme qui sent bon la blanquette, désolé Madame Maigret n'est pas la seule à en préparer, décroche un énorme succès avec Touchez pas au Grisby, qui sera par ailleurs adapté au cinéma par Jacques Becker en 1953, avec Jean Gabin bien sûr. Simonin, qui a fait 50 prisons de ballon, comme il dit, au lendemain de la Seconde Guerre pour collaboration dans des journaux financés par l'occupant, et qu'on le retrouve ici en interview.
C'est jamais agréable de se farcir du ballon, mais moi j'y ai trouvé le mot Grisby, que j'ignorais, que nous jouions au bridge avec un personnage qui s'appelait Doudou, le Nantais, et qui jouait le bridge avec l'esprit du joueur de belote. Il n'avait jamais compris. Et tout le temps, il disait « Ils vont encore me piquer mon Grisby !» Moi, je l'ai fait par chauvinisme. J'en avais ras-le-bol des municipalités pourries de deux pays que je connais pas. Et puis, un peu par reconnaissance à Francis Carco, qui a tout de même été le maître. On ne parlait plus de Francis Carco, on ne parlait plus des voyous. Je me suis dit, non, on a aussi des malfrats. Hein, ils ne sont pas tous dans l'Arizona.
Touchez pas. Touchez pas. Touchez pas. Passant du livre à l'écran, le célèbre roman d'Albert Simonin, Touchez pas au Grisby, a conservé toute sa vérité, sa puissance et son pittoresque.
Alors dis-moi plutôt combien tu m'en donnes.
35 millions.
Tu l'envoies un peu loin le bouchon, toi. 35 briques, il y en a pour 50.
Bien sûr, au cours, avec certificat d'origine. Mais je vais être obligé de les faire vendre, d'en faire des petits, de leur trouver des matricules bidons.
Moi, tout de même qu'il est temps que je te montre quelque chose.
Ah ben, qu'est-ce que vous allez me faire?
Tu vas le savoir, ma petite fille, allez, marche!
Max, on va t'expliquer de quoi il s'agit. Il nous fallait la vie d'un homme de poids pour un petit arbitrage entre nous. parle pas. Je donne ma parole.
Tu sais, Max, à mon âge, on refait plus sa vie, hein.
Touchez pas au Grisby, premier volet d'un triptyque qui comprendra Le Cave se rebiffe, également adapté au cinéma, puis Grisby or not Grisby qui, sur grand écran, deviendra Les Tontons Flingueurs.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, ça son puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
Mais au-delà de cette réjouissante trilogie française très 50s, la série noire agira aussi comme un stimulant pour une vague de jeunes réalisateurs qui veulent renverser la table, revendiquent une influence américaine et qui se rueront sur des auteurs anglo-saxons comme David Goodies ou William Irish. Parmi les réalisateurs qui puiseront à la source de la série noire dans ce qu'elle a à la fois de plus âpre et de plus capiteux, François Truffaut qui en adaptera 5 titres, mais en inversant la perspective, pour, je cite un critique, « mettre les femmes au premier plan et reléguer les hommes au rang d'objets tourmentés par le désir, celui qu'ils portent aux femmes, tout comme celui dont les femmes les accablent ». Des longs métrages qui auront pour titre « Tiré sur le pianiste »,« La mariée était en noir »,« La sirène du Mississippi » et « Vivement dimanche ».
Hey. Ah. Ne dis pas que je suis là.
Au fil des décennies, cependant, la série noire prendra un coup de vieux. C'est alors qu'arrive celui qui reste pour beaucoup comme le rénovateur du polar, du roman noir à la française, mais imbibé de ses maîtres américains, Jean-Patrick Manchette. Au sujet duquel un expert de la chose raconte. Quand il fait irruption dans la célèbre collection Série noire en 1971, il a d'un coup démodé tout un pan du roman policier français. Fini l'univers des truands corses ou de Pigalle, fini un monde à base de grandes gueules, de codes d'honneur, de poupées et autres manifestations d'un folklore à la Gabin. Manchette faisait tout à coup entrer le roman policier made in France dans la modernité, en retrouvant la filiation des fondateurs américains du genre, le roman noir comme témoin de son temps. Chassant le romantisme, refusant le psychologisme et le commentaire personnel, ce roman-là devait être, par la seule force motrice de la fiction, appuyé sur une langue solide, une lecture acide, critique de l'état de la société, et devait aussi saisir les secousses de l'histoire. Didier Daninx, auteur de polar bien connu et l'un des héritiers de Manchette, se rappelle. À une époque pourtant très occupée par la politique, guerre du Vietnam, printemps de Prague de 68, Cuba, Le Che, je ne retrouvais pas ces préoccupations-là dans la littérature dominante des années 70. Alors qu'après mai 68, le discours politique envahit tout, il y a dans l'espace littéraire comme une fuite, une pudeur ou un refus. On ne salit pas les mots avec les choses de la revendication. Ça me paraissait être un manque par rapport à toutes les lectures que je faisais des écrivains du 19e siècle. J'étais grand lecteur d'Hugo, de Balzac, de Maupassant, chez eux ou même chez Flaubert. La préoccupation sociale est toujours là, même quand elle n'est pas au premier plan. Cette sorte de reflet du réel, je le trouve alors dans le roman noir américain. Et puis, il y a la bombe Manchette. Jean-Patrick Manchette s'empare d'un genre décrié qui, dans les années 60, est majoritairement conservateur, de droite, même d'extrême droite. Et d'un seul coup, il brise les conventions. Avec lui s'opère une rupture. Radio Caroline. Le roman policier voit le mal dans l'homme, le polar dans la société, résumera à sa manière Jean-Patrick Manchette, auteur phare de la série noire dans les années 70 et instigateur de ce qu'on appellera le néopolar. Le roman policier teinté de critique sociale, néopolar, terme qui le faisait bondir, car s'il l'avait inventé, c'était pour définir certains de ceux qui se revendiquent de lui, je le cite, une tripotée de débutants qui écrivent n'importe quoi, n'importe comment, pourvu qu'ils puissent y manifester leur haine des riches, des militaires, des politiciens, des prêtres et leur tendresse pour les travailleurs, la lutte des classes, parfois le terrorisme et généralement telle ou telle forme de marxisme dégradé. Bref, des apprentis qui veulent et pensent faire du Manchette, lequel lui a renouvelé l'approche du roman noir en lui conférant une dimension très politique. Anticapitaliste, Manchette laissera donc la politique s'infiltrer dans ses intrigues. Cela dit, attention, engagé, mais jamais donneur de leçons. Les idéologies, il s'en méfiait. Qui plus est, en littérature. Dans ses écrits, c'est la dimension sociale qui primera toujours, lui qui est pétri de Flaubert et de son réalisme critique. Retrouvons Manchette, lors d'une de ses rares interviews, expliquer la façon dont il a défini, affûté, sa façon d'écrire.
Au début, je pensais faire simplement comme les grands Américains qui faisaient du réalisme critique, de la critique sociale à travers des romans d'action qui écrivaient sur la crise de 29 et sur le gangstérisme, sur la criminalisation du syndicalisme, des choses comme ça. Je me suis dit, il n'y a qu'à faire pareil. Au début, j'ai eu l'impression que j'essayais de faire un peu pareil. Et puis après, je me suis mis à me prendre la tête à deux mains en me disant « Mais non, ça ne peut pas être tout à fait pareil, parce que eux, ils étaient dans une certaine période entre les deux guerres où la perspective historique était complètement bouchée, où on allait à une deuxième guerre mondiale, où il y avait la crise. Moi, au contraire, je suis en train d'écrire après 68, dans un moment où on voit des perspectives de changement social un peu partout. Donc ça ne peut pas être la même chose. » Et depuis, je gratte, je me demande comment je fais pour utiliser un style qui est le style de l'époque précédente. Comment je fais pour l'utiliser maintenant dans cette époque-ci.
C'est donc dans la série noire que paraît, en avril 1971, l'affaire Ngoustro, le premier manuscrit signé Manchette seul, deux mois après la publication de « Laissez bronzer les cadavres », coécrit avec Jean-Pierre Bastide. L'affaire Ngoustro, largement inspirée de l'affaire Ben Barka, nom d'un homme politique marocain qui fut l'un des principaux opposants socialistes au roi Hassan II et qui sera enlevé le 29 octobre 1965 alors qu'il se rend à un rendez-vous à la brasserie Lip à Paris et dont le corps ne sera jamais retrouvé. Une affaire toujours pas élucidée, dans laquelle seraient impliquées les autorités françaises et marocaines, ainsi que les services secrets israéliens. J'y faisais allusion dans un récent épisode dédié au réalisateur Yves Boisset, qui a lui aussi été inspiré par cette histoire. Et cet épisode dédié à Boisset, je vous le recommande évidemment. Alors au sujet donc de ce premier polar de Manchette, l'affaire Ngoustro, un critique écrit. Il en résulte un livre rageur et violent, où l'auteur s'inflige l'étrange corvée de coller au subconscient d'un militant d'extrême droite devenu malfrat bas du front. Manchette y décrypte avec finesse les ressorts psychologiques nécessaires à une machination politique, ébauchant une thématique qui sera fondamentale dans son œuvre. À quelles conditions la révolte échappe-t-elle à une quelconque forme de récupération ? Jean-Patrick Manchette avait d'ailleurs milité pour l'indépendance de l'Algérie à partir de 1960, alors qu'il avait 18 ans, puis au sein d'un groupuscule, la Voix communiste, entre 1962 et 1964. Mais comme il le racontera, voir des camarades se balancer des machines à écrire à la tête 2 ans après les accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie, parce qu'incapable de se trouver une ligne politique commune, tout cela lui a coupé toute envie de poursuivre dans la voie militante. Et au moment où nombreux sont celles et ceux de sa génération qui vont pratiquer le gauchisme en diverses déclinaisons, Manchette abandonnera donc l'action politique pour distiller ses idées politiques dans l'écriture. Dans une notice biographique rédigée par Jean-Patrick Manchette à la demande de la Série Noire, il décrira ses débuts en ces mots. De 1965 à 1970, effectue des travaux d'écriture très divers, films libidineux, synopsis, retapage de scénarios, négrification, adaptation littéraire de films, novélisation, télévision scolaire, scénariste de la série télé Les Globetrotters, romans d'aventure pour adolescents, romans pornographiques, films pour la prévention des accidents du travail et de nombreuses traductions de l'anglais, seul ou en collaboration avec sa femme traductrice. Plus simplement, en réponse à la lettre que lui avait adressée une classe d'un lycée professionnel de Dordogne, il avait écrit « J'ai voulu devenir cinéaste pour gagner de l'argent, alors j'ai écrit des scénarios, j'ai fait des traductions et finalement j'ai fait des romans dans l'espérance que je pourrais les transformer moi-même en film. J'ai découvert que j'y prenais du plaisir et j'ai abandonné l'idée de faire des films. » Mais s'il n'en réalisera jamais lui-même, il écrira des scénarios pour le grand écran en adaptant des romans américains ou les siens. Et ce, à partir de 1973, date de cette interview réalisée à la terrasse d'un bistrot du Faubourg Saint-Denis à Paris.
On parle beaucoup de vous en ce moment dans Paris. Tout le monde y avait voulu Manchette et on a lu Manchette, mais on n'en trouve pas beaucoup d'articles dans la presse. Parce que vous publiez des séries noires. La série noire, c'est une sorte de ghetto. On n'est pas tout à fait un écrivain ou on est autre chose qu'un écrivain quand on fait partie de la série noire. Mais enfin, vous en êtes à 6 séries noires, 2 films avec Chabrol qu'on tourne en ce moment, avec Mocky. Pourquoi écrivez-vous des séries noires ?
J'écris des séries noires parce que, dans une certaine mesure, j'ai envie de dire que le ghetto, ce serait plutôt les écrivains d'art, ce qui ne m'empêche pas d'en apprécier un certain nombre. Je me sens beaucoup plus en contact avec le public, pour dire les choses rondement, dans une série noire, parce que ça tire un plus grand nombre d'exemplaires, par exemple. Et par ailleurs, ça me paraît être une forme parfaitement adapté, dans laquelle on peut parfaitement s'exprimer.
C'est de la littérature populaire, et vous avez envie d'être un auteur de littérature populaire, ou est-ce que vous avez envie d'être un écrivain de cinéma ?
J'ai envie des deux. J'avais envie d'être un écrivain de cinéma au départ, et maintenant j'ai vraiment trouvé du plaisir à écrire des livres. Donc je m'intéresse vraiment à la forme elle-même.
Mais par exemple, dans Odingo, Château, qui vient d'avoir le Grand Prix de littérature policière, vous avez écrit un scénario ou un roman? Est-ce que le cinéma, vous y pensez dès la première ligne?
J'ai pensé au cinéma, j'y ai pensé de deux façons, parce que d'une certaine façon, je suis très inspiré par le cinéma, puisque je suis un amateur de cinéma, et je pense au cinéma parce que j'ai envie d'en faire, j'ai envie d'écrire pour le cinéma. Et j'ai pensé que Odingo ferait un bon film et qu'il fallait que ce soit un bon scénario. J'ai essayé d'en faire un bon scénario.
Vous êtes un auteur cruel, vous faites couler beaucoup de sang dans vos livres.
C'est de la littérature de compensation. Dans ma vie privée, je suis très doux, je suis plutôt lâche physiquement. Et je ne fais pas de politique. Et dans mes livres, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de brutalité, et il y a pas mal de politique ultra-gauche.
Il y a un personnage qui est apparu et qui va sans doute revenir assez souvent, un détective privé français. C'est intentionnellement, vous voulez construire un personnage français à l'américaine ?
Oui, parce que j'ai été beaucoup influencé, non seulement par le cinéma américain, mais par le roman noir américain, que j'ai commencé par aimer avant d'essayer d'imiter. C'est un hommage que je voulais rendre, de faire un personnage de privé. J'ai l'intention de le reprendre de loin en loin, d'ailleurs, en faisant d'autres choses.
Alors c'est un homme qui habite pas ici, dans une maison semblable à celle qui nous entoure, mais Et quelle est sa personnalité?
C'est un paysan qui a été gendarme, qui a quitté la gendarmerie parce qu'il avait tué par accident un manifestant et qui s'est mis détective privé, ce qui est une idée assez délirante par les temps qui courent, détective privé tout seul à l'américaine, peut-être parce qu'il a lu un ou deux livres de séries noires lui-même.
C'est un dangereux?
Pas du tout, il est laid, il n'est pas très intelligent, ou en tout cas il est très lent. Et c'est plutôt quelqu'un à qui tombe une histoire épouvantable sur la figure, alors qu'il n'a pas eu la moindre affaire pendant les 3 ou 4 mois qu'il a passé dans le 2 pièces minable qu'il a réussi à louer.
Et l'avenir, alors, pour vous, c'est la série noire?
C'est la série noire, certainement, parce que j'aime ça et parce que c'est tout à fait possible. Je me sens, du moins, capable d'en écrire encore, mais c'est le cinéma, j'espère, si ça continue à marcher comme j'essaie que ça marche.
Jean-Patrick Manchette en 1973, année de la sortie au cinéma de Nada, tiré de son polar du même titre et réalisé par Claude Chabrol. Alors, pas le meilleur Chabrol, et d'ailleurs un peu décrié par Manchette. Par parenthèse, dans ce livre, Nada, il y a cette réplique d'un des protagonistes: le terrorisme gauchiste et le terrorisme étatique sont les deux mâchoires d'un même piège à con. Après quoi viendront, toujours adaptés de ses livres et avec des fortunes cinématographiques diverses, La guerre des polices de Robin Davis, Trois hommes à battre de Jacques Deray, Légitime violence de Serge Leroy ou La crime de Philippe Labreau. Souffrant d'agoraphobie, dont les symptômes sévères le cloîtreront la plupart du temps au cours des années 80 dans son appartement du 12e arrondissement parisien, mais surtout grand fumeur dès l'âge de 13 ans, atteint de cancers successifs, Jean-Patrick Manchette mourra le 3 juin 1995 au retour d'un voyage à Cuba qui aurait dû lui permettre d'achever son dernier roman. Pour mieux le connaître, outre ses livres, bien sûr, il y a une somme remarquée titrée « Jean-Patrick Manchette, écrire contre », publiée par Nicolas Le Flaec, ou encore sa correspondance parue à la table ronde « Lettres du mauvais temps ». Correspondance dans laquelle on trouve ceci. « J'ai vécu une expérience bizarre parce que j'ai publié des histoires radicales et elles n'ont pas suscité grand-chose, sinon un certain respect de la part des connaisseurs compétents et la réaction d'une foule de gens en colère s'attelant à l'écriture de romans noirs en claironnant que Manchette avait montré la voie. L'idée d'ouvrir la voie à de jeunes romanciers en colère est une horreur et l'approbation bienveillante exprimée par l'establishment est assez douloureuse également. » Mais face à cette lettre et à ses propos et à bien d'autres d'ailleurs, une éditrice tempère. Jean-Patrick Manchette a suscité des vocations d'auteur comme jamais avant lui. C'est sans doute son plus bel héritage. D'Hervé Lecor à Nicolas Mathieu, ils sont nombreux à déclarer s'être mis à l'écriture après l'avoir lu. Comme d'ailleurs, on l'évoquait tout à l'heure, Didier Daninx. Ouvrier imprimeur dès l'âge de 16 ans, en 1966, Daninx se retrouvera ensuite animateur culturel, puis journaliste localier, frayant donc avec Le Fait divers. En 1977, alors qu'il se trouve au chômage, Daninx écrit un premier roman, Mort au premier tour, qui sera refusé par 10 éditeurs avant d'être finalement publié en 1982 par les éditions du Masque, mais sans grand succès. En revanche, son deuxième roman, Meurtre pour mémoire, paru dans la série noire, en 1984, fera parler de lui. Et pour cause, bien avant le procès de Maurice Papon pour complicité de crimes contre l'humanité en 1998, Didier Daninx fait ressurgir dans son polar un événement sanglant, le massacre à Paris de dizaines d'Algériens le 17 octobre 1961 lors d'une manifestation du FLN en pleine guerre d'Algérie. Police dirigée par Maurice Papon, qui n'avait pas été inquiété à la Libération malgré son passé vichiste et qui deviendra préfet de police de Paris, entre autres mandats. Meurtre pour mémoire lancera la carrière de Didier Daninx. Dans les années 80, la série noire sera concurrencée par Rivage Noir, collection qui s'en distinguera par son travail sur les couvertures et leur graphisme, sur le choix des photos, mais aussi par la volonté de publier des œuvres complètes de chaque auteur américain, reprenant dès lors des auteurs anglo-saxons découverts par la série noire, mais sous-exploités par elle. rivage noir, optant qui plus est pour le mode texte intégral, là où la série noire avait souvent tronqué les manuscrits anglo-saxons lors de leur traduction. Rivage noir qui se fera connaître grâce notamment à Lune sanglante de James Ellroy. Non pas en 1984, date de sa sortie, mais 3 ans plus tard, quand Jean-Patrick Manchette confiera au journal Libération le roman de James Ellroy, Lune sanglante, est passé pour l'instant complètement inaperçu. Il faut donc signaler aux amateurs, pour leur plaisir, qu'il s'agit d'un des plus remarquables romans noirs de la décennie par sa préoccupation intellectuelle élevée, son écriture savante et, pour le dire balistiquement, son épouvantable puissance d'arrêt. La puissance d'arrêt, c'est la capacité d'une munition à mettre un ennemi hors de combat. Ellroy, dont la notoriété en France explosera ensuite, toujours dans Rivage Noir, avec le Dahlia Noir et L.A. Confidential. Au rayon polar engagé, il faut aussi pointer la collection Le Poulpe, créée en 1995 par Jean-Bernard Puy et une bande d'auteurs autoqualifiés d'anciens gauchos, antifachos et plutôt radicaux, avec comme idée de départ faire un SAS de gauche tendance libertaire. Et les femmes dans tout ça? À partir du milieu des années 90, la série noire, critiquée précisément pour l'absence d'autrice dans ses rangs, publiera des livres signés Pascal Fontenot, Sylvie Granotier, Maïté Bernard ou encore la Belge Nadine Monfils. Mais parmi celles qui ont fait ressurgir un passé social et politique peu reluisant au travers du roman noir, il y a Dominique Manotti qui publiera en 2000 le roman Marseille 1973, évoqué d'ailleurs à l'époque dans Radio Caroline. Marseille 73, car année où la France connut une série d'assassinats d'Arabes, d'Algériens en particulier. Dominique Manotti met en scène le jeune commissaire d'Aquin, 27 ans, fraîchement nommé à l'hôtel de police de Marseille, lieu de toutes les compromissions où tout se sait et rien ne sort. L'autrice, par ailleurs historienne, rappelant le recyclage des anciens fonctionnaires de l'Algérie coloniale dans les commissariats et l'idéologie raciste toujours vivace en ces lieux. Le racisme qui infuse partout et dégoûte le jeune commissaire. D'Aquin, écrit-elle, jette un dernier regard sur le vieux port à ses pieds, l'eau glauque immobile, les quais déserts, pas un bruit, pas un mouvement, la vie est suspendue, la ville ne respire plus, elle attend, elle pue le sang. Notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas, vous le savez, à le partager, à l'étoiler. Belle journée ou bonne nuit.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.